Notre invité aujourd'hui a été fait membre de l'Ordre du Canada. Il a été le président du Canadien de 1982 à 1999. Le tricolore a remporté deux Coupes Stanley en 86-93 sous sa présidence. Ronald Coré est indéniablement un gars de hockey, mais un des plus grands passionnés de golf du Québec. Le tournoi des maîtres, le parcours d'Augusta National n'a plus de secret pour Ronald Coré. Salut Ronald.
Salut Ron, comment ça va?
Ça va bien. Parle-moi.
C'est la belle semaine de l'année. Oh. Écoute bien, quand arrive le tournoi des maîtres, ouais. D'abord, on sait que nous, on va jouer dans quelques semaines.
Oui, oui.
Et le printemps qui arrive après un hiver qui était très long. Ça fait que ça, je dois dire que j'ai regardé aujourd'hui un peu toutes les entrevues, puis en même temps, ils font le tournoi des par 3.
Oui, c'est ça.
Et ce que j'ai vu tantôt, c'est le petit-fils de Jack Nicklaus.
OK.
Qui cadait pour son grand-père.
Oui, je m'en souviens.
Qui jouait avec Tom Watson et Gary Player. Et sur le 9e trou du par 3, il a fait un trou d'un coup. Quel événement! Un coup parfait.
Oh,
là, Gary pleure, il a dit, je pense qu'il va peut-être avoir un coup d'un coup. Là, la balle descend tout doucement, elle arrête pratiquement au trou, elle disparaît. Le grand-père est content.
Écoute, là, tu vas me parler de toi un petit peu et tu vas me parler du fait que tu as joué à combien? 10 reprises là-bas, toi?
Ouais, j'ai été invité 3 fois. Je suis resté là-bas. J'ai été invité par Howard Blauvelt dans 2 occasions, une trentaine d'années, 25 ans. Et on restait là. Évidemment, on arrivait toujours le midi.
Mm-hmm.
On jouait une ronde l'après-midi. Le lendemain, on jouait 36 trous.
Oui.
Et ensuite, on jouait un dernier 18 trous avant de repartir. Ça fait que ça, j'ai eu la chance de le faire 2 fois avec lui. Et il y a eu quelques années, quand j'étais président du Champions Tour, le président du Champions Tour m'avait invité avec le chairman d'un des tournois du Champions Tour, qui est membre à Augusta, et j'étais allé jouer. Donc, j'ai joué, dans le fond, les deux terrains. L'ancien terrain qui était moins long et moins difficile, et le nouveau, depuis qu'il a allongé beaucoup les trous. Et là, c'était, écoute, c'est, évidemment, c'est jouer là, c'est un rêve, parce que à Augusta, c'est vraiment, vraiment spécial. Tu entres sur le site, là, puis c'est le golf. Tu sais, ça t'enveloppe complètement toute l'histoire du tournoi des maîtres, l'impeccabilité du parcours et de toutes les installations. Et là, quand je suis allé la dernière fois, une chose que j'ai vue, c'est le nouveau terrain de pratique que tu vas voir d'ailleurs toute la semaine quand les joueurs pratiquent, avec les petits verres et les trappes de sable et tout.
Mm-hmm.
Ça, ça a été construit tout récemment, il y a quelques années.
Mm-hmm.
Et ça, c'est un terrain qui est utilisé seulement la semaine du tournoi des maîtres. Et ce n'est que les joueurs du tournoi des maîtres qui peuvent l'utiliser. Les membres de Augusta ont un autre champ de pratique, et ce terrain-là, ils peuvent l'utiliser une fois à leur tournoi annuel.
Ronald Coré est notre invité. Ronald, mettons, moi, j'ai ben de l'argent, là, un peu comme Ronald Coré, là. Ben de l'argent, puis je veux rentrer membre, là. Ça se fait-tu?
Non, tu peux oublier ça. Ça, être membre à Augusta, c'est seulement sur invitation. Et moi, la personne qui m'avait invité les 2 premières fois, Howard Blauvelt, était un président d'une grosse entreprise aux États-Unis, mais il était surtout un excellent joueur de golf. C'était un joueur amateur qui jouait à +2 ou +3 d'handicap et qui a joué les tournois amateurs à travers le monde.
Okay.
Que ce soit le British Amateur, le US Amateur, le Canadian Amateur. Il jouait ces grands tournois-là.
Okay.
Et lui, il a reçu un matin une lettre de Clifford Roberts, qui a créé le club avec Bobby Jones.
Oui.
Et il l'invitait à aller jouer une ronde avec lui. Avec là, ils se sont communiqués. Finalement, ils ont joué demain matin à 9h.
Mm-hmm.
Lui est arrivé avec son avion. Il est allé jouer. Il s'était à 9h la rencontre. Il est arrivé un peu avant le temps. Il n'y a plus qu'à attendre.
Mm-hmm.
Puis là, il a rencontré Clifford Roberts. Là, ils ont joué. Ils ont participé. Puis ils ont joué 9 trous. Mm-hmm. Ils ont pris une bouchée. Et là, Clifford Roberts a dit, c'était un plaisir de jouer avec vous. Mais il n'a pas joué le 9 de retour. Il avait joué seulement 9 trous.
Okay.
Donc là, il ne comprenait pas vraiment ce qu'il avait. Pas correct.
Hein?
Et là, quelques jours plus tard, ou quelques semaines plus tard, il a reçu une lettre pour lui dire qu'il était accepté comme membre au tournoi à Augusta. Et c'est comme ça qu'il est devenu membre. Et les membres à Augusta, évidemment, la saison est ouverte après, je pense qu'ils jouent peut-être 1 mois et demi après le tournoi, puis ça ferme en été, et ça crée en automne. Et là, quand ils invitent des gens, évidemment, ils font les arrangements nécessaires, et là, ils prennent les réserves, mettons, un des chalets, ou même on peut rester à l'intérieur du chalet, du clubhouse, puis il y a aussi des cottages. Et là, on y va, et quand on joue notre ronde le soir au dîner, on peut voir qui, à différentes tables, est le membre, parce que chaque membre porte le veston vert qu'on donne au champion du tournoi des maîtres.
OK.
C'était une année avec Howard Blauvelt au 16e trou.
Wow.
Parce qu'on jouait toujours la deuxième journée, un 18 trou du tête arrière. Mais dans ce temps-là, c'était l'ancien parcours, là, qui était moins long que celui qu'on va voir cette semaine.
Mm-hmm.
Et lui, au 16e, il arrive, il avait 76 ans maintenant. Il avait un élan magnifique. Il joue son petit bois, et là, il fait un trou d'un coup. Et là, le cadet qui dit, « Mr. Blauvelt, the ball is in the hole.
Mm-hmm. »
Okay, il nous regarde et dit, je joue avec Mickey Cowan et Pierre Michaud, il dit, « Est-ce que j'ai fait Holenman? » Mais oui, il dit, « Non, je ne peux pas l'avoir. Je ne vois pas si loin maintenant.
Okay. »
Puis là, il dit à nous autres, il dit, « Ça fait 63 ans que je joue au golf. C'est la première fois que je fais un trou d'un coup et je ne le vois pas.
Ah, »
C'est une aventure magnifique. Quand vous restez dans le chalet, le soir, même si c'est tout devenant blanc et vert, c'est, vous avez la télévision, c'est toutes des reprises des tournois du maître de l'histoire. Ça peut être 68, Goldby, sa victoire, Palmer, Nicklaus, Namely et tout.
Mm-hmm.
Et c'est du golf. T'es vraiment là, enveloppé dans le golf là, pour trois jours. Ça, c'est extraordinaire.
Dis-moi une chose, Ronald Coré. Lorsque on vit des expériences comme cela, C'est unique. Est-ce que à ce moment-là, on rêve à ce moment-là de jouer avec de grands golfeurs? Puis ça a-tu été le cas pour Ronald Coré? Est-ce qu'il a joué avec Fred Couples? Est-ce qu'il a joué avec Tom Watson, Gary Players? C'est quoi ta journée la plus formidable avec un pro? Là?
Moi, j'ai eu la chance de jouer avec Couples. J'ai joué avec John Daly. J'ai joué avec Bruce Litsky. J'ai joué avec Corey Pavin. Alors, j'ai eu la chance de jouer avec plusieurs d'eux autres. Et c'était des journées magnifiques. Puis je me rappellerai toujours, à Toronto, c'était au Royal St. George's. Et là, je jouais avec Jean Coutu. Il y avait le président du Royal St. George's et John Daly, qui venait de gagner le PGA.
Oui.
Le tournoi majeur. Il avait été invité à la dernière minute.
Oui.
Puis il a gagné le tournoi. Et là, on se rappelle de sa victoire à John Daly. Tu sais, tout le monde l'adorait. Il était spectaculaire. Il était simple comme bonjour. Et là, deux mois après, on avait eu cette rencontre-là à Toronto. Et là, au tennis St. George's, les gens qui étaient là ont tous suivi John Daly. Et la journée qu'on a passée avec lui, c'était formidable. Ouais. Il a été d'abord d'une gentillesse incroyable pour tout le monde.
Est-ce que Ronald Coré apprécie le retour de Tiger Woods dans le...
Mais oui.
Autant que l'amateur ordinaire comme moi.
Écoute. Tiger, ce qu'il a fait, c'est incroyable. Il a amené le golf, lui, à l'autre étape, après Palmer. Et tous les pros aujourd'hui, l'argent qu'ils peuvent faire au golf, ils peuvent dire merci à Tiger Woods.
Mm-hmm.
Et le public adore Tiger Woods, parce que c'est un joueur spectaculaire, tellement dédié, tellement déterminé. Moi, ce que j'aime de Woods, là, moi, je disais toujours, c'est le Maurice Richard du golf. C'est lui, là, quand il embarque sur le terrain, c'est pour le gagner.
Qui va gagner? Qui va gagner ça, Ronald?
Ben, je vais dire une chose. Ce que j'aimerais, évidemment, que Tiger Woods gagne, ça, je pense bien que c'est le choix de tout le monde. Imaginez-vous l'histoire, ça serait comme, excusez-moi le thème anglais, mais le comeback de l'année dans le sport.
Ouais.
Et, mais il y a tellement de bons joueurs qui sont là. Moi, je pense que le joueur qui a le mieux joué dans les cinq dernières années au Masters, c'était Justin Rose, qui a été dominant présentement dans toutes les catégories. Je regardais, il y a les statistiques qui montraient. Il a joué du grand golf. Puis l'an dernier, son
satellite,
il a perdu avec Garcia.
Ouais.
Alors, moi, je pense que Justin Rose, ça serait le gars que je pense qu'il a peut-être le plus chance de gagner. Mais encore là, il y en a même une quinzaine qui peuvent gagner.
Vous savez, les gens à l'écoute, là, Ronald Coré, pour certains d'entre vous, vous avez, je sais pas, 25-30 ans, vous l'avez peu connu, vous avez entendu parler de cet homme-là, puis son haut fait d'armes, là, quelque chose d'important, à part ces deux Coupes Stanley, là, Ronald Coré là, a été le concepteur, si je peux utiliser cette expression-là. C'est lui qui a eu l'idée d'avoir un amphithéâtre comme on a à Montréal, avec autant de sièges sur la passerelle, parce que lui se disait dans le temps, je me souviens, parce qu'il m'avait fait visiter l'amphithéâtre, puis il avait dit, vous savez, vous autres, les journalistes, je vais vous dire un affaire, là. Nous autres, là, on va mettre des sièges, je cite, là, en masse en haut, ça passerelle, parce qu'on va être en finale de Coupe Stanley. Puis on veut. Ah, Ronald, tu t'en souviens de ça?
Oui, oui.
Hey, c'est tout un amphithéâtre,
ah,
là, Ronald.
Oui, c'est magnifique. Surtout le centre-ville. Ce qu'il faut, là, moi, si je suis une chose, je suis content, c'est d'avoir construit au centre-ville. Parce que ça a changé la ville complètement.
Ah,
et ça, j'y tenais mordicus parce que. Je me rappelle, dans le temps, j'avais beaucoup de gens qui me faisaient des pressions pour aller le faire dans le bout du stade olympique, d'aller à l'extérieur, de refaire l'ancien forum qu'on avait regardé pour le faire. Mais c'était impossible de faire ça, ça aurait été une erreur.
Ouais.
Mais quand j'ai eu la chance avec Bill Stinson de CP de regarder ce terrain-là de la gare Windsor, je pense que c'était vraiment une décision qui était, à mon avis, la décision à prendre, avec l'aide de des compagnies Molson, puis du conseil de Molson, d'Éric et tout le monde. C'est pas moi qui le dis. Là, encore cette année, on a voté le Centre Bell, maintenant le Centre Molson dans le temps, comme le meilleur amphithéâtre. Ça a été voté par les joueurs. Il l'avait fait aussi dans l'USA Today dans le temps.
OK.
Mais je pense que l'angle de nos sièges, c'est assez unique. Et vous avez 21 000 sièges, et avec une, je dirais peut-être que le, je peux appeler ça, la superficie est quand même petite. Ouais. Les gens sont comme par-dessus la glace.
Oui, c'est vrai.
Moi, je me rappelle, j'allais souvent voir les pratiques du dernier siège en haut, et je voyais, tu vois, il y a de l'âge quand tu entendais tout. C'était vraiment bien placé. Et la vue est assez exceptionnelle, parce qu'aux États-Unis, l'angle des sièges, ils n'ont pas le droit de le faire comme nous, on le fait. Ils sont plus, eux autres, inclinés, moins inclinés que nous.
Ouais,
c'est-à-dire que nous autres, si on a réussi, avec les architectes, tout le monde, on a travaillé bien fort là-dessus, avec une équipe formidable qui m'accompagnait, et on a réussi à faire ça, donc je suis bien content. Ouais, c'est vrai qu'on a des bons sièges.
Ouais. Hey, dans le temps, là, en 86, je vais te rappeler, Ronald, il y avait 21 équipes. Aujourd'hui, il y en a 31. Ouais. La business là est plus florissante que jamais. C'est vraiment... On fait des millionnaires, des milliardaires, les gars qui investissent là-dedans. Aurais-tu pensé un jour, toi, que ça serait aussi grandiose, aussi payant, aussi formidable pour s'en avoir vers peut-être 32 concessions?
Ouais, d'abord, je pense prendre le hockey, la Ligue nationale de hockey a été, dans mon temps à moi, la majorité du temps que j'étais là, c'était des revenus surtout des billets d'entrée.
C'est ça.
Parce que la télévision n'était pas très payante dans le temps.
Non.
Aux États-Unis, il n'y avait même pas de télévision comme telle. Ah. On faisait une entente, moi je me rappelle, avec NBC ou CBS, où on partageait les revenus.
Ouais.
Et le hockey n'était pas ce qu'il était aujourd'hui.
Ouais.
Là-dessus, Gary Bettman, que moi j'étais évidemment, j'étais dans le comité de sélection de Gary Bettman, on était quatre. Et lui, il venait de la NBA. Là-dessus, par exemple, il a fait un travail remarquable pour amener la Ligue où elle est là. Et en plus, évidemment, de toute la nouvelle technologie, c'est l'Internet, tout ce qui a évolué dans le domaine des communications qui n'existait pas avant. Avec ça, ça a tout changé, ça. C'est pas seulement dans le hockey, mais tous les autres sports.
Ouais.
Il faut que ça soit le baseball, le hockey.
C'est ça.
Les Olympiques. Prenez l'histoire des Olympiques. Je me rappelle, mais les Olympiques à Radio-Canada, on avait eu les droits des Olympiques de Rome en 60. Et je pense que le Canada avait pratiquement payé rien ça pour les Olympiques. Et ensuite, les Olympiques, c'est devenu... Là, il y en a un qui a fait un gros travail là-dessus, c'était Richard Pound. Mm. Mais le marketing des Olympiques, c'est incroyable. Mm. Mais ça a parti de loin, ça aussi. Donc, aujourd'hui, ce qui est arrivé, c'est que le hockey, c'était un sport, à mon avis, aux États-Unis, dans mon temps, c'est un sport local. Autrement dit, tu avais beaucoup de popularité du hockey à Philadelphie.
Ouais.
Pittsburgh, tu avais les clubs à New York, mais tu avais des états complets qui avaient aucun, où il n'y a pas de hockey du tout. Le hockey collégial a monté très fort aussi aux États-Unis. Il y a de plus en plus de tournois. Le nombre de joueurs, mais moi, évidemment, je ne suis pas ça comme vous autres, là, mais je pense que j'ai vu l'autre jour une statistique qui m'a un peu, pas surpris, mais c'était quand même assez surprenant de voir ça, c'est que cette année, je pense qu'il y a plus de joueurs non-canadiens dans l'Union nationale, si je ne me trompe pas. Mais aux États-Unis, il y a vraiment une poussée du hockey incroyable.
Oui.
Et la venue des équipes, tu sais, je me rappelle qu'on critiquait beaucoup l'équipe en Arizona. Mais comme j'ai rencontré par hasard cette année Lou Lamoriello, et Lou, on était bien proches quand j'étais dans l'Union nationale avec lui, et je disais, Lou, il ne faut jamais oublier une chose. S'il n'y a pas eu d'équipe en Arizona, il n'y aurait pas eu d'Austin Matthews.
Hey, c'est bien trop, hein?
C'est bien
clair.
Ça, il y a des bénéfices comme ça qui viennent. Mais là, qui grandit. Il grandit.
Ouais.
Et les gens qui sont là font un bon travail. Et puis 31 équipes, c'est énorme. Tu sais, moi, on a eu 21 équipes, 24. Bon, là, je ne me rappelle pas comment j'en avais quand je suis parti. 25, 26 peut-être, 27.
Ouais.
Mais dans ce temps-là, que, mettons, quand tu avais 21 équipes, il y en avait 5 qui ne faisaient pas les séries éliminatoires. Là, le jour où quelqu'un faisait la remarque, puis c'était juste d'ailleurs. Vous avez 15 équipes qui ne font pas essayer de Vous avez une équipe sur deux qui s'appelle notre part. Et chaque année, évidemment, j'avais des équipes très bonnes qui ne font pas essayer de notre part, ça c'est sûr. Parce que là, je sais qu'on parle peut-être de changer le format des éliminatoires, mais ça a bien changé. Mais dans le fond, pas nécessairement pour le pire, mais c'est plus stressant
pour tout le monde. C'est difficile, c'est pour ça que c'est difficile pour nous autres. Pour toi, pour moi, pour les amateurs, de comprendre que le Canadien peut être exclu des séries parce que ça arrive aux meilleures équipes. C'est arrivé à Tampa Bay l'année passée, ça arrive aux meilleures équipes.
Tampa Bay, regardez cette année, Edmonton,
je
me rappelle des prédictions au début de l'année, tous vous autres, des journalistes.
C'est ça.
Tout le monde met Edmonton en finale, pratiquement.
Oui.
Puis ils sont pas là.
T'as raison.
Et Détroit n'est pas là. Chicago n'est pas là.
C'est ça.
Ça fait que ça devient un travail extrêmement difficile pour ceux qui dirigent les équipes. Et la tension est là. La pression est forte.
Carey Price, hier, après 8 ans, il devance un gars que tu as connu, Jacques Plante, pour le plus grand nombre de matchs. Quand tu as entendu ça, tu t'es dit, wow! Aurais-tu pensé que quelqu'un aurait gaulé à Montréal plus que Jacques Plante?
Mais moi, surtout que Jacques Plante, il a travaillé pour nous autres.
C'est vrai.
Quand j'étais là. J'ai bien connu Jacques Plante, évidemment.
Oui.
Et un grand gardien. Évidemment, Dryden, Patrick Roy, tout le monde. Mais moi-même, j'étais surpris du nombre de matchs. Je pensais personnellement que Plante avait joué plus de matchs. Ouais. Après ça, j'ai réalisé que la cédule n'était pas de 80 matchs.
C'est ça.
Ça a été des saisons 60 puis de 70.
Puis là, lorsqu'on regarde tout ça, l'ensemble de l'œuvre, toi, en tant que comme d'hockey, en tant que partisan et tout ça, c'est juste une question d'être patient, puis ça va revenir, puis c'est ça ta mentalité.
Écoute, c'est sûr qu'on a eu une année difficile, mais il ne faut pas oublier quand même que Shea Weber n'a pas joué de l'année, dans le fond.
C'est vrai.
Il s'est blessé après le premier match. Price et Pacioretty ont eu des années difficiles. Drouin, qui est, à mon avis, je pense qu'il a un talent incroyable, mais c'est une première année. Il n'était pas à la position peut-être qu'il préfère. En tout cas, ça, il y a tout ça. Puis ensuite, il y a eu quand même aussi des belles choses. Je pense à Gallagher, je pense à Biron, je pense à Barron, je pense à Des Lauriers, de l'acquisition.
Oui.
Némi, le gardien de vue, c'est quand même ça. Tout le monde était surpris de ça.
C'est ça.
Je me rappelle qu'on critiquait quand on est allé chercher, mais il est une belle surprise. Il y a sûrement des choses à faire, mais ça, je pense qu'ils ont l'équipe pour apporter un collectif. Puis là, pour une des rares années, on va peut-être choisir parmi les premiers. Tout le monde disait ça.
Oui.
Fait que là, espérons qu'on soit chanceux dans la loterie et que Mac pourra choisir le premier joueur. Espérons-le, mais je pense qu'il faut... écoute, c'est passé, c'est une mauvaise saison et espérons que tout va reprendre du bon côté l'année prochaine. Moi, j'ai confiance. Puis je suis un partisan à vie.
Ben, puis espérons qu'on va jouer une petite ronde de golf ensemble, Ronald. Puis
n'importe quel temps.
Avec grand plaisir.
Avec plaisir.
Merci beaucoup. Ça a été le fun. Le passionné de golf puis le passionné de hockey. On s'en parle bientôt, Ronald.
Bye,
bye, bye, bye. Bye.